Bonjour bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'opportunité de le louer, de l'adorer. C'est aussi une occasion pour nous de nous mettre devant Dieu et de le laisser, comme le disait le roi David, laisser le Seigneur sonder nos cœurs. David disait: ô Dieu, sonde-moi, sonde mon cœur, regarde en moi, regarde en moi. S'il se trouve en moi quelques péchés, montre-les-moi, révèle-les-moi, afin que je vienne à genoux te demander pardon. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu nous aide. Vous savez, il y a des circonstances où la manifestation du Seigneur est plus que d'ordinaire. Et je crois que l'une de ces circonstances, c'est quand l'Église est rassemblée. Quand nous sommes rassemblés en tant qu'Église, Dieu aime à se manifester de façon spéciale. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché, parce que le péché nous avilit, le péché nous fait du mal, et le péché fait du mal aux autres. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence dans nos cœurs. Merci pour le jour où tu nous as rencontrés. Merci pour la période où tu as été à notre recherche. Merci pour le jour où la période où nos yeux se sont ouverts, nous avons pris conscience que Dieu existe. Où tu nous as révélé notre péché. Où tu nous as montré que seul toi peux nous donner de nous en détourner. Ce matin, merci d'avoir permis l'expression de notre louange, de notre reconnaissance, par nos prières, par les chants que nous avons montés vers toi d'un commun accord. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne. Ta parole dit que le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Ta parole dit que le commencement de la science, c'est la crainte de Dieu. Ta parole dit que le commencement de la connaissance, c'est la crainte de Dieu. Saint-Esprit, ce matin, tu nous vois, tu me vois. Je te demande pardon, Seigneur. Le prophète Ésaïe, lorsqu'il a été confronté à cette manifestation de ta sainteté, il a dit: malheur à moi, car je suis un être impur, et je suis dans la présence de Dieu. Et tu as envoyé un ange faire ce rituel pour le sanctifier. Nous n'avons plus besoin de rituel, mais nous avons en Christ cette grâce de venir à toi, de te demander pardon, et à cause de l'œuvre à la croix du Christ Jésus mort et ressuscité, tu nous pardonnes. Tu dis que si nous confessons du fond de nos cœurs, si nous regrettons, si nous avons même cette conscience que telle parole, tel acte ou telle pensée n'a pas été à ta gloire, le Saint-Esprit nous aide à être sensibles à ces choses. Merci Saint-Esprit, aide-nous s'il te plaît à cette sensibilité. Montre-nous, parle-nous. Manifeste-toi, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen. Amen. Peut-être qu'avant d'aller plus loin, je vais inviter encore... Nous avons une grosse journée aujourd'hui, donc... Mais on va prendre le temps de prier le Seigneur. Je vais inviter Patricia, Anaël et Eric à revenir. Nous allons chanter « Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne dans son salut. » Que nous puissions chanter ce chant avec une certaine attitude. Une attitude en demandant à Dieu « Sonde mon cœur. Montre-moi. Sonde mon cœur. Montre-moi. »
Dieu est un Dieu puissant.
Ce matin, nous allons encore méditer dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Éphésiens, que nous avons commencé de voir le dimanche dernier, Éphésiens chapitre 4. Cette épître est une épître, comme je l'ai dit dimanche dernier. Ce sont des instructions que Dieu met dans la bouche de l'apôtre Paul, des instructions sur l'amour de Dieu. C'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il est dit que cette expression de l'amour, le verbe amé, qui veut dire agapao en grec, est utilisé 9 fois dans cette épître de 6 chapitres, alors que dans tout le corpus des lettres de l'apôtre Paul, il est utilisé 23 fois. Et le nom qui a donné amour, agapé, est utilisé 10 fois dans cette épître de 6 chapitres, alors qu'il est utilisé 65 fois dans toutes les épîtres de l'apôtre Paul. on voit que, alors que c'est une épître qui est centrée sur l'Église, en même temps que le thème de cette épître, c'est l'Église, mais c'est l'Église liée au thème de l'amour. Et l'apôtre, poussé par le Saint-Esprit, nous exhorte, depuis le chapitre premier de cette épître jusqu'à la fin, à voir au travers de cette épître comment Dieu souhaite que l'amour du chrétien se manifeste dans tous les domaines de sa vie, dans son lien avec l'Église, corps de Christ, mais aussi dans sa manifestation quotidienne dans sa vie, dans son foyer, dans sa famille, dans sa relation à l'autre. Le thème du vieil homme et du nouvel homme, il dira: rejetez le vieil homme et revêtissez-vous de l'être nouveau qui est donné par Jésus-Christ. Mais comment tout cela se fait-il? Et c'est ce que nous avons commencé de voir la semaine dernière. Éphésiens chapitre 4, et je lis cette fois-ci à partir du verset 1er. Voici ce que je vous demande avec force, moi qui suis prisonnier pour le Seigneur. Vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Amen. Ce texte se finit avec le but pour lequel Dieu suscite l'Église, Dieu suscite le croyant. C'est que nous soyons amenés à la statue parfaite de Christ. Et la question qui nous est posée tout au long de notre réflexion depuis dimanche dernier, est-ce que je deviens de plus en plus semblable à Jésus-Christ depuis mes X années de conversion? Si tant est que je fonctionne au sein du corps de Christ, qui est l'Église, et que je suis exposé aux dons des autres chrétiens, et que mon don aussi est au bénéfice des autres chrétiens. Est-ce dans cette ambiance que j'évolue? Est-ce dans cet espace spirituel que j'évolue? Où en suis-je avec ma ressemblance à Jésus-Christ? Notre foi chrétienne n'est pas un ensemble de rites ou de traditions seulement. Ce n'est pas un ensemble de façons de faire spirituelles. J'entends par là, ce n'est pas notre présence régulière et fidèle au culte seulement. Ce n'est pas nos temps de prière à la maison. Ce ne sont pas nos méditations, nos lectures bibliques seulement. C'est qu'est-ce que tout cela implique dans notre ressemblance à Jésus-Christ. Si nous voulons considérer ces remarques que l'apôtre Paul déclare dans l'achèvement de ce but, que Dieu, dans son grand plan, dans cette grande entreprise qui est l'Église, a mis au milieu des hommes, que faisons-nous? Où en sommes-nous? On va regarder que l'apôtre Paul va nous stimuler à deux reprises tout au long de ce petit paragraphe. Il va nous dire que le but ultime de la vie par la foi, c'est la mesure avec laquelle nous pouvons juger de notre progrès dans notre vie chrétienne. À quel stade? Comment manifestes-tu la plénitude que Jésus est censé t'avoir conférée? Puisque la Bible dit que lorsque nous sommes tournés à Dieu, Dieu s'est uni à nous par son esprit et nous a communiqué la plénitude de sa grâce. Et c'est par cette plénitude que nous avons le salut. Qu'est-ce que ce dépôt? Comment ce dépôt que Christ a fait en nous? C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes marqués par le sceau du Saint-Esprit, que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Un enfant, quand il naît, est censé se développer, est censé grandir, est censé, au fur et à mesure des différentes étapes de sa vie, il est censé maturer jusqu'à ce qu'il soit un adulte, un homme et une femme faits. Et lui aussi, à partir de ce moment, il crée famille et il continue son cheminement. Où en sommes-nous? Vas-y, Sarah. Mais pour que nous puissions, chacun et tous ensemble, parvenir à ces statuts parfaits de Christ, il semble que nous avons tous une part unique à jouer dans la famille de Dieu. Nous avons tous une part unique à jouer dans la famille de Dieu. Il dira au chapitre 5, verset 1, « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. » Devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ, dans toute sa plénitude. Que Dieu nous aide. Pour que nous puissions continuer de réaliser que dans cette action de Dieu, nous avons tous notre part à jouer. Voici. Nous faisons tous partie de Christ, n'est-ce pas? Nous faisons partie de son corps. C'est l'Église, le corps de Christ. Et dans ce corps, nous avons chacun de nous une partition à jouer. Les musiciens le savent bien. Si les partitions sont harmonieuses, le son de la musique est harmonieuse. Si les partitions ne sont pas en harmonie, tout de suite, on attrape les oreilles parce que là, ça ne marche pas. Ce n'est pas agréable. La composition n'est pas harmonieuse. Nous devons donc marcher en complète harmonie, disons, avec les autres dans l'Église de Dieu. Avec cet appel à faire partie du plan de Dieu, du plan de la maison de Dieu, nous devons vivre fidèlement dans le cadre de cet appel, c'est-à-dire dans le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu, c'est l'Église. C'est l'Église. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Ça veut dire simplement que quand Dieu, dans son souverain dessein, à planifier l'histoire du monde, il avait arrêté qu'en Christ Jésus, il bâtirait un nouveau projet qui s'appelle Église. L'assemblée de tous ses enfants qu'il a appelés à lui, qu'il a attirés à lui. Et que dans cette Église, nous voyons qu'une partie de cette marche de l'Église, c'est notre propre service, le service de chacun et de chacune d'entre nous. C'est notre propre travail, le travail de chacun et de chacune. Et pour lequel Dieu nous a donné un ou des dons uniques. Les dons qu'il a fait à Caroline, les dons qu'il a fait à Viviane, les dons qu'il a fait à Émile, les dons qu'il a fait à Eric. Chacun de nous a reçu un don, au moins un. Nous sommes des êtres uniques et Dieu a mis en nous des dons qui nous sont particuliers. Et c'est pour cela que personne ne peut faire le travail que Dieu m'a donné de faire. Parce que je suis Serge et je suis unique. Unique ne veut pas dire que je suis parfait. Ça veut dire que Dieu, dans sa grâce, il a fait chacun de nous unique. Et que chacun de nous a sa part à jouer. La preuve, c'est que l'empreinte de nos doigts est une empreinte unique. C'est comme ça on sait si c'est Serge qui est passé par là ou si c'est Henri qui est passé par là. Par l'empreinte des doigts. Parce que ces empreintes sont uniques. Chaque être humain a une empreinte unique. Il n'y a que lui seul qui l'a. Il n'y a que lui seul qui l'a. Nous faisons tous partie de ce corps et nous avons chacun notre part à jouer. Le but, c'est d'édifier le corps de Christ. C'est de construire le corps de Christ. La raison pour laquelle Christ a donné des croyants investis de dons de son Église, c'est pour qu'ils puissent former d'autres croyants pour le ministère. Ça veut dire que comme des artisans, chaque ministère, notamment ceux qu'il a cités, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, sont là pour modeler, pour construire comme un artisan, pour fabriquer chaque croyant, pour que chaque croyant soit apte, lui aussi, à être utile dans la maison de son Père. Ces personnes à qui Christ a fait des dons doivent édifier d'autres chrétiens. Et l'histoire de l'Église le montre bien. Voilà plus de 2000 ans que l'Église existe. Et dans chaque génération, dans chaque siècle, les croyants ont préparé d'autres croyants à prendre le relais. Jusqu'au retour de Christ, chaque génération, chaque siècle, chaque Église de telle ou de telle époque est appelée, elle aussi, à faire son travail. Pour que, si Christ n'est pas encore de retour, que la génération d'après soit préparée, soit outillée, soit édifiée pour continuer l'œuvre de l'Église. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que si une génération défaille, ça s'appelle la mort spirituelle et Dieu suscite le réveil. Il y a eu des périodes de l'histoire de l'Église où l'histoire était triste, où l'Église s'est discréditée aux yeux de la société et même par rapport à sa mission. Mais Dieu a toujours gardé un petit reste quelque part, qui est resté fidèle. Et c'est de ce petit reste qui est reparti à chaque fois un réveil nouveau. On dit que si nous sommes protestants aujourd'hui, c'est parce que justement Dieu, dans ce 16e siècle sombre, a gardé un petit reste duquel est sorti quelqu'un qui s'appelle Martin Luther, le réformateur. Avec une folie, il a propulsé un mouvement qui a donné un réveil au 16e siècle et qui a été appelé protestant. Parce qu'il avait une conviction de péché que Dieu a mis dans son cœur. Le péché était devenu quelque chose, puisqu'il était un religieux à l'époque, il était un moine, un augustinien, quelqu'un qui apprenait la théologie, qui était versé dans les encycliques, qui avait beaucoup lu toutes les grandes doctrines de l'Église catholique. Mais il dit, malgré toute cette connaissance, je sentais que quelque chose n'était pas... J'étais pas bien, j'étais pas complet, ma communion avec Dieu n'était pas encore cela. Alors qu'il était capable d'expliquer des doctrines théologiques de façon incroyable. Jeune qu'il était, on commençait même à lui donner des missions dans beaucoup d'autres sphères de l'Église de l'époque. Et pourtant, il dira plus tard, je n'étais pas converti. Et il a rencontré Jésus d'une façon spéciale. Il dit, c'est lorsqu'il faisait, il y a deux épisodes dans sa vie, un épisode où, de retour d'un voyage, il a raté de mourir par la foudre qui est tombée, non loin de lui. Et là, il s'est dit, j'ai failli mourir et je ne suis même pas sûr que je suis sauvé. Et c'est là qu'il était en train de traduire l'épître aux Romains. Que l'histoire dit que là, il a compris que le salut, ce n'est pas par les œuvres, mais que le salut est un don gratuit de Dieu, auquel le croyant répond par la foi. Car ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, mais c'est le Christ qui nous sauve. Mais que nous devons répondre que nous sommes des pécheurs, et que parce que nous sommes des pécheurs, nous avons besoin d'être sauvés. Et c'est le Christ qui sauve. Et c'est là que cette révélation lui a donné de dire, la doctrine qui est enseignée dans notre Église à cette époque-là semble ne pas être là-bas. Il entend de plus en plus que c'est par les œuvres que le chrétien pose qu'il arrive au ciel. Il dit c'est une erreur. Et on dit qu'il a écrit 95 thèses. Les thèses à l'époque, c'est des affirmations fortes, bibliques, et qu'il a affichées sur la cathédrale de l'époque. C'était une atteinte à l'Église à l'époque de faire ça. Mais c'était une façon à l'époque aussi de dire ses pensées. Mais ces 95 thèses étaient tellement fortes que ça lui a valu une convocation par les plus grandes autorités religieuses de l'époque. Et lui a dit de parjurer. Parjurer à l'époque, c'est de dire que ce que tu as écrit, tu l'as écrit sur le fait de l'émotion, mais tu n'en es pas convaincu. Et que ce que tu retiens, c'est la doctrine traditionnelle de l'Église. Et il a dit quelque chose qui reste dans l'histoire. Il dit, moi, ce que je demande, c'est que vous me convainquiez que ce que je dis n'est pas dans la Bible. Si ce que je dis n'est pas dans le texte biblique, alors oui, je vais parjurer. Il dit, jusque-là, j'ai appris malheureusement que la tradition est plus les encycliques des papes que ce que la parole de Dieu dit. Bref, il a failli être tué parce que on l'a jugé, on l'a condamné à mort, et quelques-uns l'ont aidé à fuir avant que la sanction ne tombe sur lui. Et c'est comme ça qu'il s'est replié et qu'il a commencé ce ministère d'enseignant, le formateur. Pourquoi je vous raconte cela? Je vous raconte cela parce que on peut se tromper en croyant que parce qu'on a tel nombre d'années de foi, dans le sens de participer à l'Église, dans le sens de connaître la doctrine chrétienne, dans le sens de connaître intellectuellement les choses, d'être capable de les expliquer, si on n'a pas connu Jésus, si on n'a pas donné sa vie à Jésus, si on n'est pas né de nouveau, si on n'a pas fait l'expérience de la conversion, on se trompe. Un de mes collègues disait que lors de sa jeune vie de pasteur, il était à une conférence où il entendait des grands théologiens de l'époque parler, mais de ces théologiens, eux-mêmes disaient, nous sommes théologiens, mais nous ne sommes pas croyants. C'était un choc pour lui. Parce qu'il n'avait pas compris que théologie, c'est aussi un métier. Donc on a des professeurs de théologie qui ne sont pas forcément des croyants. Mais leur métier, c'est d'étudier les textes bibliques et d'être capable de les expliquer. Et ils sont aussi bons dans les explications que même certains pasteurs. Et pourtant, ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. Le but des ministères, dont de ces personnes, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, c'est de justement accompagner chaque croyant pour que chaque croyant ait rencontré Jésus, qu'il se donne à lui, qu'il change de vie et qu'il continue de maturer à l'image de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Galates, il dit, si quelqu'un d'autre venait vous annoncer un autre évangile que ce que nous avons dit, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, parce qu'il n'y a pas un autre évangile. Le seul évangile, c'est que tous sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et que Dieu appelle tous les hommes, où qu'ils soient, à se tourner vers lui, à reconnaître leur péché et à faire la paix avec Dieu. Vas-y, Sarah. L'Église, comme un corps, l'Église, comme un édifice. L'Église de Jésus-Christ est comparée au corps, c'est une image. Cette image, elle nous donne de comprendre ce que je viens de dire tout à l'heure, que pour être joint à ce corps, il faut faire l'expérience de la nouvelle naissance. As-tu donné ta vie à Jésus? As-tu reconnu que tu es un pécheur, que tu es une pécheresse et que tu ne peux pas te sauver de toi-même? Aussi belles que soient tes œuvres, tu ne peux pas les revendiquer comme justice devant Dieu. Car tes œuvres, si Dieu veut passer un scanner, on trouvera quand même quelques œuvres mauvaises. Une seule œuvre mauvaise nous disqualifie. Car la Bible dit que celui qui veut obéir au commandement, il doit obéir à tous les commandements. Il ne doit même pas faillir à un seul. Car s'il faillit à un seul, bah, il a failli à tout le corpus des commandements. Donc, il est coupable. Que Dieu nous aide. Une fois que nous avons fait cette expérience spirituelle de la nouvelle naissance avec Jésus-Christ, nous sommes intégrés à l'église de Jésus-Christ, qui est le corps. À partir de ce moment, chaque membre doit apporter sa contribution dans ce corps. L'image du corps, c'est cette physiologie, n'est-ce pas? Lorsque un membre de notre corps dysfonctionne, on dit que nous sommes malades. Il y a une gradation dans la maladie. Il y a des maladies qui sont bénignes, qui vont passer à l'espace d'une journée, et il y en a qui malheureusement vont être plus grandes. Donc chaque membre qui est joint à ce corps doit jouer son rôle. Et tandis que chaque membre se consacre au travail que Dieu lui a donné de faire, le corps tout entier peut fonctionner comme Dieu l'a prévu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous ici, dans cette communauté locale de Créteil ou dans d'autres églises? C'est que chaque personne chrétienne née de nouveau, que Dieu a intégrée à son église, doit jouer son rôle. Pour que justement cette église, qu'elle soit celle de Créteil, celle de Vigneux, celle d'Arpajon, celle d'Évry, que chaque église puisse être dans un fonctionnement qui plaît à Dieu. Vas-y, Sarah. Cette notion d'édifice, c'est pareil. L'édifice, c'est que chacun de nous est une pierre vivante que Dieu ajoute pour continuer à construire son église, n'est-ce pas? Et l'image ici de cet édifice, c'est l'image qu'il y a un architecte qui s'appelle Dieu, qui a confié à son fils Jésus et qui bâtit cette belle architecture qui est l'Église. La Bible dit qu'il est le chef. Il est le chef. C'est lui qui coordonne tout cela. L'architecte. Que devons-nous retenir ce matin? Pour terminer. Nous devons retenir que vivre fidèlement selon le plan de Dieu, selon le plan que Dieu a établi pour l'Église. Et si nous disons que nous nous soumettons à l'autorité de Christ, cela exige que chacun de nous puisse vivre dans une famille de Dieu, une famille locale de Dieu, une église locale. C'est ce que Éphésiens dit. Éphésiens dit que chaque chrétien devrait vivre dans une église locale. C'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul invite tous ceux qui ont une responsabilité en tant que leader d'accomplir leur tâche dans l'Église. Nous qui sommes membres du conseil, notre tâche, c'est de veiller à ce que chaque frère, chaque sœur soit exposé régulièrement à la parole de Dieu, à la saine et bonne doctrine, que chaque frère, chaque sœur soit dans cette crainte de Dieu permanente, régulière, qui est le commencement de la sagesse, qui est le commencement de la connaissance, qui est le commencement de la science. Nous, en tant que leaders, notre travail, c'est de faire en sorte que chaque frère, chaque sœur que Dieu a nanti de dons et de talents soit au service de l'Église. Pour que justement, chaque frère, chaque sœur soit édifié, construit, grandi dans l'amour de Dieu. Et pour nous qui sommes, pour vous qui êtes les membres de ce corps, nous tous, nous sommes membres de ce corps, de l'Église. Pour que cela fonctionne correctement, chacun de nous aussi doit jouer son rôle, doit faire son travail avec le don que Dieu t'a donné. L'Église de Jésus-Christ est toujours en construction. Elle est en construction jusqu'à ce qu'il revienne. C'est notre tour de bâtir la partie que nous devons bâtir. Quand Néhémie a été envoyé pour rebâtir la muraille de Jérusalem, on dit que chacun, selon sa tribu, les uns aux côtés des autres, bâtissait le bout de muraille qui était dédié à sa famille. Et c'est comme ça qu'ils ont fini ensemble, d'une façon harmonieuse, a rebâti cette muraille. Et nous, nous sommes un peu dans cette image. Dans ce 21e siècle, c'est à nous de bâtir la partie que Dieu nous a confiée. Alors soyons fidèles. Soyons fidèles. Personne ne viendra bâtir l'église de Jésus-Christ pour nous. C'est nous. C'est un privilège que Dieu nous a fait. C'est à nous qu'il a confié cette responsabilité. Chacun et chacune d'entre nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fortifie. Voyez-vous, ceci est la vision de Dieu pour l'église. Et c'est aussi sa vision pour ses églises, de par le monde, à travers les siècles. C'est quelqu'un qui le disait. Aucune autre entreprise, incluant nos grandes organisations et institutions, n'est au cœur de son plan. Aucune. La seule qui est au cœur de son plan, c'est l'Église. L'Église, c'est la vision de Dieu. L'Église, c'est la famille de Dieu. Bien-aimés, nous ne nous y trompons pas. Oui, par la loi française, nous sommes déclarés en association culturelle. C'est normal. Nous sommes dans le monde et nous sommes dans une structure sociale. Et nous devons avoir une existence sociale. Donc nous sommes déclarés en association culturelle, appelée Église protestante évangélique de Créteil. Mais ne nous y trompons pas. Ce n'est pas qu'une organisation. Ce n'est pas qu'une association culturelle. C'est la famille de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et ce que tu fais ici, ce que je fais ici, a un impact spirituel dont nous n'imaginons même pas la portée. Alors que Dieu nous aide pour que nous puissions être l'Église de Dieu, chacun avec le don et le talent que Dieu t'a donné pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer. On dit oui, mais sans nous, l'œuvre peut continuer. Je ne sais pas. Dieu aurait pu faire sans nous, mais il a décidé de faire avec nous. C'est son choix. Et comme il a décidé de faire avec nous, quelque part, nous sommes co-ouvriers avec le Christ. C'est-à-dire que Christ est le chef et nous, nous le suivons. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que tu puisses vivre cela avec reconnaissance. Qui nous sommes pour que Dieu nous associe à son œuvre? C'est une grâce qu'il nous fait, c'est un privilège. Et ne dis pas que je suis trop petit. Ne dis pas que je suis trop petit. Dis simplement, même si je suis trop petit, Dieu compte aussi sur moi. Dieu compte aussi sur moi. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne. Et son règne se manifeste par le travail de son Église. Et nous sommes l'Église du Dieu vivant. Que Dieu nous bénisse ensemble.